Radio Okapi. Le journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
Clôture hier du dépôt des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe et Jacques Joly sont des candidats uniques au poste de président et de rapporteur. Mais pour chacun des autres postes de ce bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, plusieurs candidats se bousculent. La passation des épreuves préliminaires de l'examen d'État est perturbée depuis hier par les combats entre le M23 et les FRDC dans plusieurs localités du territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon le président de la jeunesse Tembo du Nord Kivu, d'autres sources déplorent le fait que les attaques du M23 se rapprochent de plus en plus du chef-lieu du territoire de Massissi. Philippe Zeller est l'invité de Radio Okapi ce matin. Il est l'avocat de Roger Lumbala, l'ancien chef de guerre congolais, qui est poursuivi et détenu en France pour complicité des crimes contre l'humanité autres que les génocides. Et à la fin de ce mois de mai, la justice française devra examiner la validité de l'ordonnance de mise en accusation formée contre lui. Bonjour à tous. Le dépôt des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est clos depuis hier lundi. Mis à part Vital Kamerhe et Jacques Joly, qui postulent comme candidat unique au poste de président et de rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilumbai, Christophe Mbosso, Dominique Munongo, Serge Bahati et Caroline Bemba voient leur candidature court-circuitée par d'autres députés candidats au même poste. Michel Kifindangoy.
En dehors de Vital Kamerhe et Jacques Joly, candidat unique président et rapporteur de l'Assemblée nationale, les autres postes ont enregistré deux candidatures ou plus. À la première vice-présidence, la candidature de Jean-Claude Chilumbai de l'UDPS fera face à celle de Ngoï Kasanji de l'AFDCA. Christophe Mbosso se dispute le poste de deuxième vice-président avec Antipas Mboussanya Mouissi et André Litté. Dominique Munongo de Ensemble pour la République est dans la cour contre Constant Mutamba pour le poste des rapporteurs adjoints. Serge Bahati, désigné par le Présidium, se dispute la question avec John Banza. Dédé Mupasa est dans la course avec Patrick Eshiba et Trésor Lutala contre Caroline Bemba, désignée par le Présidium de l'Union Sacrée, candidate question adjointe.
Et notez que l'UDPS, première force à l'Assemblée nationale, veut le poste de premier vice-président. Son secrétaire général dit désapprouver la recherche des intérêts partisans manifestés selon lui par d'autres membres de l'Union sacrée. Augustin Kabouya.
Nous, l'UDPS, nous sommes la première force politique de notre pays. Si on n'avait pas tenu compte des autres, on pouvait occuper tous les postes. La personne que nous venons de désigner, c'est un professeur d'université. Cela veut dire quoi? Il peut même être président du bureau de l'Assemblée. Il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'exhorter les uns les autres de comprendre qu'il faut utiliser la voie de la sagesse au lieu de créer une crise artificielle pour leur intérêt personnel. L'IDPS se battit pour notre peuple et l'IDPS restera toujours derrière la population.
Candidat lui aussi au poste de premier vice-président, Ngoï Kasanji de l'AFDCA estime lui que sa candidature est une expression de la démocratie.
L'unanimité, on constate ça à travers le vote. Donc il faut attendre le vote pour voir qui va réunir l'unanimité dans vos pas. Comme vous pouvez le remarquer, c'est l'exercice démocratique que nous vivons aujourd'hui. Donc, on peut concourir à tous les postes. C'est ça même la démocratie. Moi, j'estime que le peuple veut voir les véritables élus membres de mon regroupement AFDCA. C'est en ce nom que j'ai postulé.
Quant au président du bureau d'âge, il affirme avoir choisi de poursuivre de servir la République en qualité de deuxième vice-président. Christophe Mbosso.
Notre cartel compte 32 députés. Le message que je lance à l'opinion, je suis venu tout simplement déposer ma candidature comme l'ont fait tous les autres collègues désignés par la majorité. Et je demande aux députés humblement de m'élire comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale.
De son côté, Serge Bahati de l'AFDCA précise qu'à travers sa candidature au poste de questeur, c'est toute la jeunesse congolaise qui s'implique dans la gestion du pays.
Nous avons déposé la candidature de la jeunesse congolaise à l'Assemblée nationale. Le contexte politique nous a avantagé du fait que nos députés du parti, précisément du regroupement AFDCA, ont fait confiance à la jeunesse et plus précisément lui ont donné l'occasion de porter haut et fort les couleurs de notre regroupement, mais aussi au sein de l'Union sacrée qui a donné l'occasion à la jeunesse congolaise de démontrer de quoi elle est capable. C'est une candidature qui vient donner l'occasion à la jeunesse de démontrer qu'elle peut porter les intérêts de plusieurs générations et se rendre utile à l'intérêt général.
C'est un dossier signé Michel Kifindangoï. Pendant ce temps, à la Chambre haute du Parlement, nous apprenons que les sénateurs nouvellement élus sont convoqués à la session inaugurale ce mardi. Conformément à l'article 114 de la Constitution, les sénateurs se réunissent de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats provisoires. Ainsi, au cours de la plénière inaugurale de ce mardi, le secrétaire général du Sénat mettra-t-il en place un bureau provisoire qui sera dirigé par le doyen d'âge assisté de deux plus jeunes. Ce bureau aura pour mission de valider les pouvoirs des sénateurs, élaborer et adopter le règlement intérieur de la Chambre et organiser l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. Sachez par ailleurs que la Cour constitutionnelle examine aujourd'hui 20 requêtes en contestation des résultats des élections sénatoriales. Ces requêtes se rapportent aux élections organisées dans les provinces de Kinshasa, Kwango, Tshopo, Tshuapa, Kasaï Oriental, Okatanga, Tanganyika, Kasaï Central, Sud Kivu, Otuele, Maniema et Sankuru. Au Nord Kivu, des violents combats ont opposé toute la journée d'hier lundi, le M23 soutenu par le Rwanda, au FRDC et leurs alliés locaux dans plusieurs localités du territoire de Masisi. C'est notamment autour de l'agglomération de Katale, à environ 10 km du chef-lieu du territoire, ainsi qu'autour de Luke et ses environs, à cheval entre les groupements à Oufamandou et le secteur de Osso-Banyungu. En plus des conséquences humanitaires, ces combats affectent les activités scolaires, déplore le président de la jeunesse Tembo du Nord Kivu. Il parle notamment des élèves finalistes du secondaire dont la passation des épreuves préliminaires de l'examen d'État est perturbée. Kibou Yakaïma Donatien est joint ici par Bernard Danyangi.
Les gens de Miano, Kashukano, Burora, les gens de Kirundu, les gens de Remeka, tous se dirige vers Walikale et Ziralo, d'autres vers Biriko. Les enfants qui faisaient les examens d'État, les examens préliminaires, se sont aussi éparpillés de leur centre. Et voilà alors, ça devient de bandades au sein de la population. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement de voir comment prendre vraiment une décision et mettre fin à cette situation parce que la population est en train de subir une souffrance. Imaginez-vous, les gens de Bufamandu, il n'y a pas où un lieu on peut les cantonner pour que ce soit un cadre déplacé. Donc ils sont en train de se diriger vers la forêt, sous la pluie. Nous demandons au gouvernement de voir comment cette situation peut prendre fin.
Rappelons qu'après l'occupation de plusieurs villages dans cette zone d'égroupement Mufuni, Ufamandu, Boabo et Bihiri, les attaques du 1-23 se rapprochent peu à peu du chef-lieu du territoire de Masisi, déplorent nos sources sur place. Et puis au sud Kivu, des bombes sont tombées hier lundi aux environs de 13h locales dans la cité de Minova, territoire de Kalehe, faisant deux morts, une femme de 48 ans et son petit-fils âgé de 8 ans. Selon le président du cadre de concertation de la société civile de la région qui livre cette information, ces engins provenaient de la zone occupée par le M23 dans le Masisi, au Nord Kivu. Selon lui, deux bombes sont tombées à Kitalaga, deux autres à Rudauba et une bombe à Kiata. Dans la province de la Tshopo, le collectif des députés provinciaux des territoires d'Opala et d'Ubundu dénonce la résurgence des tueries entre les peuples Mbole et Lengola alors que les hostilités avaient déjà cessé. Dans une déclaration conjointe hier lundi à l'Assemblée provinciale, ces députés provinciaux attirent l'attention des gouvernements central et provincial sur le risque d'une guerre civile avec des conséquences incalculables si on n'y prend garde. Ils formulent un certain nombre de recommandations. Suivez plutôt un extrait de cette déclaration lu par l'un d'eux, Dr Aimé Eyane, élu d'Opala, un extrait sélectionné par Jacques Moukonkole.
Nous rappelons aux leaders communautaires de ces deux peuples que depuis la nuit des temps, nous sommes un peuple épris de paix, d'amour et de fraternité. Arrêtons donc la violence de tout genre, quelles que soient les divergences, et privilégions, les dialogues, la paix et le vivre ensemble. Au regard de la gravité des faits et de l'urgence, nous recommandons ce qui suit au gouvernement central et provincial. 1. Organiser dans un bref délai un forum sur la paix et le vivre ensemble entre les communautés pour juguler la survenue des conflits. 2. Organiser une table ronde sur la gestion des terres, source de survenue de la plupart des conflits intercommunautaires. 3. Accorder plus d'attention à ce qui se passe à Lubunga en apportant de l'aide aux déplacés des atrocités et surtout en dotant les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur mission régalienne. À la justice de permettre à ce que toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces conflits de se présenter devant leur juge naturel pour garantir les droits fondamentaux et libérer enfin les innocents.
Dans la province du Nord-Ubangi, on assiste à la montée des tensions sociales et de l'insécurité ces derniers temps dans le territoire de Yakoma. Plusieurs conflits non résolus sont à la base de cette situation, mais aussi les troubles à l'ordre public, ainsi que la présence accrue des éleveurs du Soudan du Sud, les Mbororo. La société civile territoriale interpelle les autorités provinciales et nationales pour leur implication pour éviter le pire. Le point avec Paul Richard Malengela.
Des sources concordantes indiquent que l'insécurité devient grandissante à travers le territoire de Yakoma. Chaque semaine, plusieurs localités rapportent des cas de justice populaire. À la base, les tensions sociales ou conflits fonciers non résolus, ils perdurent ainsi faute d'intervention rapide des forces de l'ordre. Le président de la société civile territoriale, Jean de Dieu Woulwoulou, témoigne.
À Yakoma, il y a trop de foyers de tensions qui aboutissent à des soulèvements populaires. Ça aboutit à des incendies, à des actes de vandalisme. De la justice populaire. On ne constate pas la présence de la police. La police est démissionnaire ici, ainsi que les autorités politico-administratives n'arrivent pas sur les lieux des drames.
Toujours à propos de cette insécurité, l'administrateur du territoire a récemment fustigé le manque de moyens d'intervention. Il a surtout sollicité l'accroissement des effectifs de la police nationale et des FRDC en vue de l'aider à maintenir l'ordre public. En outre, le président de la société civile de Yakoma déplore l'insécurité alimentaire créée par la présence accrue des éleveurs étrangers Mbororo, lesquels écument avec leur cheptel les champs des villageois et empêchent ces derniers d'accéder à leur récolte. Voilà pourquoi il lance encore un SOS en direction des autorités nationales en vue de renforcer la sécurité et l'autorité de l'État à Yakoma. Bondaka pour Chamanigé, la radio Okapi.
À Kinshasa, les habitants de la partie ouest de la ville devront encore attendre d'ici au 15 juin, sauf imprévu, pour circuler à nouveau sur l'avenue Nguma. Le ministre des Travaux publics qui a visité le week-end cette route en chantier estime que les travaux évoluent à présent de manière satisfaisante pour demeurer dans le délai fixé après le passage du chef de l'État sur ces chantiers. Depuis les débuts de cette semaine, les équipes sur le terrain procèdent notamment à la coulée du béton sur la chaussée au niveau de la route qui mène vers la place commerciale à Macampagne et de la couche de Macadam à hauteur de l'entrée du quartier Météo. Parlant de l'après-travaux, le ministre Alexis Guissaro recommande à la population ce qu'il appelle un civisme citoyen. Pour ne pas jeter les bouteilles en plastique et autres déchets dans les caniveaux, ce qui pourrait les boucher est une des causes des destructions de l'avenue Nguma.
L'invité.
À la fin de ce mois de mai, la justice française devra examiner la validité de l'ordonnance de mise en accusation formée contre Roger Lumbala. Il s'agira d'examiner la possibilité ou non de poursuivre Roger Lumbala en France. L'ancien chef de guerre congolais est poursuivi et détenu en France pour complicité de crimes contre l'humanité, autres que les génocides et l'association des malfaiteurs en vue de commettre un crime contre l'humanité autre que le génocide. Pour en parler, Radio Okapi reçoit son avocat. Philippe Zeller s'entretient avec Jeff Ngoy.
Philippe Zeller, bonjour.
Bonjour, monsieur Ngoy.
Vous êtes l'avocat de Roger Lumbala. Quel est le statut pénal actuel de votre client à Paris?
Monsieur Lumbala a été mis en examen au mois
mois de janvier 2021 pour des faits de complicité de crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo et mis en examen par un juge d'instruction français. Au mois de novembre 2023, ce juge d'instruction a décidé d'une part un non-lieu partiel de M. Roger Lumbala, mais par ailleurs a ordonné la mise en accusation de M. Roger Lumbala pour la suite des chefs de prévention pour lesquels il est poursuivi en France. Dans ce contexte, nous avons contesté cette ordonnance de mise en accusation et formé un pourvoi en cassation. Ce pourvoi en cassation sera examiné à la fin de ce mois de mai. Concrètement, dans l'hypothèse où la Cour de cassation faisait droit à nos demandes, les poursuites seront abandonnées et M. Lumbala sera sorti.
Ça veut dire qu'il sera libéré, extradé vers la RDC, puisqu'il y a une requête du procureur général près de la Cour de cassation concernant son extradition pour être jugé par la justice nationale qui avait déjà ouvert des poursuites à son encontre depuis 2013.
Alors ce sont deux sujets différents. La question de la demande d'extradition formée par les autorités congolaises à l'encontre de M. Lumbala, elle est décisive pour déterminer si oui ou non la justice française est compétente, si oui ou non la justice française a autorité pour poursuivre et juger M. Lumbala. Dans la mesure où on est dans une matière qui est subsidiaire, on est dans une matière qui est dérogatoire, dans la mesure où la France, évidemment, ne peut s'emparer de situations relatives à des ressortissants étrangers pour des faits commis à l'étranger sur d'autres ressortissants étrangers, dans la mesure où la France ne peut s'emparer de tels faits que dans un cadre extrêmement contraint, extrêmement restreint, il faut s'assurer que le cadre législatif qui s'impose aux juges français soit respecté. Au cas précis, dans la mesure où il existait, au moment des poursuites contre M. Lumbala, d'ores et déjà une demande d'extradition formée contre lui par les autorités congolaises, la justice française, tout simplement, n'est pas compétente. Donc, le point de savoir s'il existe ou non une demande d'extradition formée par la RDC contre M. Lumbala permet de déterminer si oui ou non la France a autorité pour le poursuivre et le juger. Comme cette demande existait, comme cela est documenté, comme cela m'a été rappelé par le parquet général, la France n'est pas compétente pour le poursuivre. Maintenant, la question de la mise en musique, de la mise en exécution de la demande d'extradition est une autre demande, c'est un autre sujet qu'il conviendra de traiter le moment venu, une fois que la justice aura constaté que, eh bien, elle n'est pas compétente pour poursuivre et juger M. Lumbala.
Et vous, à ce stade, quelles sont les démarches que vous menez pour que Roger Lumbala soit extradé?
Les démarches que j'ai initiées sont des démarches qui ont été initiées vis-à-vis des juridictions françaises dans le cadre des poursuites dont M. Lumbala est l'objet en France. J'ai alerté les autorités judiciaires sur la situation pénale, sur le statut pénal de M. Lumbala en RDC. Pourquoi? Parce que le ministère public, le parquet, n'avait pas pris attache avec les autorités congolaises, n'avait pas cherché à connaître le statut pénal de M. Lumbala. Donc il a bien fallu prendre ce contact, prendre cette attache. Il a bien fallu pallier la carence du parquet. C'est ce qui a été fait. Et donc, ensuite, une fois qu'est constatée la situation pénale de M. Lumbala en RDC, les autorités françaises doivent en tirer toutes les conséquences. Ça veut dire abandonner les poursuites parce que, encore une fois, la France n'a pas autorité pour les poursuivre.
Au nom du droit international, la justice française n'a pas autorité lorsqu'il y a violation du droit de l'homme.
Il est certain que, dans la mesure où les autorités de poursuite et les juges d'instruction n'ont pas respecté la législation française, il y a à la fois un viol de la loi française et à la fois un viol de la souveraineté de la République démocratique du Congo, donc deux manquements fondamentaux.
Donc, vous soutenez que Roger Lumbala soit extradé pour être jugé par la justice congolaise?
Eh bien, c'est pas moi qui le soutiens, c'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a initié des poursuites contre M. Lumbala pour divers chefs, dont ceux pour lesquels il est poursuivi en France. C'est acté dans le dossier, ça a été rappelé par le parquet général près de la Cour de cassation à Kinshasa à la suite des demandes que j'ai formulées. Ce rappel a été communiqué aux autorités judiciaires françaises.
La date du procès au niveau de la France n'est pas encore connue jusque-là.
La date du procès au niveau de la France est estimée à l'heure actuelle, elle est envisagée, c'est-à-dire elle est envisagée à la fin de l'année prochaine, à l'automne de l'année 2025. Mais ce procès à la fin de l'année 2025 est suspendu à la décision de la Cour de cassation. Dans l'hypothèse où la Cour de cassation fait droit à notre demande, les juridictions françaises ne seront pas compétentes et donc il n'y aura pas de procès en France.
Philippe Zeller, je vous remercie.
Je vous remercie.
C'est par cet entretien entre Philippe Zeller, l'avocat de Roger Lumbala, et Jeff Ngoï que prend fin ce journal sur Radio Okapi. Merci à vous tous qui l'avez suivi.